بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم شفان إسلام لا سمن ديانيه On avait complété l'histoire de Moussa alayhi salam, c'était dans Surat al-Nazi'at, avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal au prophète Moussa alayhi salam d'aller affronter Pharaon et lui faire passer le message de Haqq, le message de la vérité. Et ce qu'on a surtout retenu de la fin de cette histoire dans al-Nazi'at, c'est le verset فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى Ce verset de lequel Allah Rabbul Izzah rappelle qu'il a châtié Pharaon, qu'Allah Rabbul Izzah a châtié Allah, Allah le saisit de la punition exemplaire, la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. Et quand on voit comment est-ce que Pharaon a été détruit ainsi que toute son armée, ça fait réfléchir, ça nous fait réaliser, ça nous fait comprendre la grandeur d'Allah Rabbul Izzah, son qudra, son pouvoir. Parce qu'il y avait une personne qui se proclamait être Dieu et qui avait avec lui une armée de centaines de milliers, voire de millions de combattants. C'était l'homme le plus puissant à son époque, certainement un des plus grands tyrans de l'humanité, un des plus riches. Allah Rabbul Izzah a anéanti Pharaon, sa famille, ses proches, sa cour, ses ministres, son armée, les réservistes qui avaient été convoqués en une fraction de seconde, avec un seul intermédiaire. Et voyez, subhanallah, cet intermédiaire, Allah Azza wa Jal l'a utilisé de deux façons opposées. La mère a été un intermédiaire pour sauver Moussa alayhi salam et les Banu Israël, parce que sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal, la mer s'est ouverte. Et de cette façon, il y a eu un chemin pour Moussa alayhi salam et les Israélites. Et cette même mer, ce asbab, cet intermédiaire, Allah Azza wa Jal l'a utilisé pour anéantir les a'da, les ennemis de son prophète, malgré leur nombre, en quelques secondes. Combien de temps il faut pour une personne, combien de temps, ben vous n'avez pas cette expérience heureusement, combien de temps il faut pour se noyer quand quelqu'un ne sait pas nager? Donc personne n'en est revenu, personne n'a vécu, je ne sais pas, il faut une dizaine de secondes. Si quelqu'un est pris dans des vagues ou dans un courant, il ne sait pas nager, même s'il sait nager d'ailleurs, le temps de suffoquer, de manquer d'air et que l'eau pénètre dans les bronches, les narines, et que donc il n'y a plus de voie respiratoire ni par le nez ni par la bouche, sauf s'il y en a qui peuvent faire par les oreilles, mais c'est très rare, en 10 secondes, une personne meurt. On peut estimer, ça vient de moi, on peut estimer que l'armée de Pharaon a été anéantie en moins d'une minute, même si on va dire que ça prend un peu plus, en moins de 60 secondes, l'armée la plus puissante a été anéantie depuis le chef, le Amir, si on peut appeler ça comme ça, Pharaon, jusqu'au dernier serviteur qui suivait ce tyran. Ça c'est là, Qudra d'Allah Azza wa Jal. Et si notre Seigneur cite cette histoire de le Coran à plusieurs reprises, c'est pour que cela soit une leçon pour l'ensemble de l'humanité, d'où le verset Inna fi dhalika al-ibra, à condition qu'on ait la crainte d'Allah. On avait fait la relation la dernière fois entre comprendre, extraire les leçons du Coran et la présence de foi et de taqwa dans le cœur. Inna fi dhalika al-ibratan liman yakhsha. Il y a certes là, c'est-à-dire dans cette histoire de tout ce qui s'est passé, un sujet de réflexion, mais pas pour tout le monde, pas pour n'importe qui, pour celui qui craint. On avait expliqué que celui qui développe l'amour pour Allah, l'amour pour Allah, pour son din et la crainte d'Allah de son cœur, cette personne aura déjà intérieurement un terrain favorable. Spirituellement, il sera apte à comprendre les versets du Coran, à en tirer les leçons, à profiter de la lumière du Coran. Contrairement à celui qui reste dans le péché, celui qui n'est aucunement intéressé par le haqq, par la vérité, cette personne, on pourra lui citer toutes les histoires du Coran, il pourra écouter les plus grands savants, les plus grands érudits, les plus grands shuyukhs, quelles que soient les époques, cela ne lui fera aucun effet. Wallah musta'an, parce que ces points noirs ont rendu son cœur imperméable. Ses péchés ont rendu le cœur imperméable. C'est pour ça que la clé, wallahi, et j'ai relu d'autres versets, d'autres tafsirs aujourd'hui, ça, subhanallah, on n'arrête pas d'être surpris en relisant des versets qu'on connaît, qu'on récite, qu'on mémorise. Mais en relisant le tafsir, on se dit, subhanallah, c'est vrai, comment est-ce qu'on n'y a pas pensé? La solution, elle était là. La solution, elle est accessible, elle est simple. La clé, c'est al-istighfar. Vous allez dire que oui, mais donc celui qui fait des péchés, ben, c'est fini. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'issue? Est-ce qu'on peut dire que c'est un cas désespéré, perdu? Et que même s'il écoute les versets, il essaie de profiter, il ne pourra pas spirituellement? Abadan. À partir du moment où la personne demande istighfar, demande pardon à Allah Azza wa Jal avec sincérité, ikhlas, en réunissant les conditions, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Combien de hufaz il y a aujourd'hui? 3. MashaAllah. C'est une facile ça. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna, n'importe quel autre péché. Et l'imen yasha, il y a deux éléments. Allah peut pardonner n'importe quel autre péché, mis à part le shirk. Allah peut pardonner n'importe quel autre péché et n'importe qui, l'imen yasha. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cas désespéré. Une personne qui se reprend, se ressaisit et qui décide de retourner vers Allah avec sincérité, cette personne pourra de nouveau profiter du Coran. Dire que ça c'est la parole d'Allah, c'est quelque chose de pur. Et pour que cette parole pure pénètre les cœurs et fasse un effet, il faut qu'on travaille le terrain. Quand vous avez un terrain vague avec des ronces, avec des mauvaises herbes, vous voulez faire pousser un manguier ou un pied de litchi, pied de longanie, ça va être difficile, ou des roses. Il faut quand même défricher avant d'enlever cette saleté, parce que ça ne peut pas cohabiter. Ce cœur a besoin d'être nettoyé, et la meilleure façon de se nettoyer des péchés, c'est à l'istighfar. Dans certaines versions, il faisait au moins 70 fois istighfar tous les jours. Il nous reste combien de temps avant de dormir là? Une heure? On va se coucher à quelle heure? 22h, 22h30, 23h on va dire. Est-ce que quelqu'un a déjà fait au moins 30 istighfar? Au moins. Il faut dire qu'on va compléter 40 avant de dormir. Nabiullah, l'homme parfait, il fait au moins 70 fois istighfar. Et encore une fois, on le dit, on le répétera jamais assez. Istighfar, c'est pas uniquement bil-lisan. C'est quelque chose qui émane du cœur. Quand je dis astaghfirullah, quelle que soit la formule, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah wa atubu ilayh, ou le seuil de l'istighfar, Allahumma anta rabbi, mémoriser ce doigt, c'est trop puissant ça. Le seuil de l'istighfar, ça fait à peu près 3 lignes. Mais il faut le mémoriser. Ou téléchargez-le, c'est une application, faites ce que vous voulez, mais il faut l'avoir disponible. Soit on le mémorise, soit on l'a en support, il faut le lire. Donc, quand on demande l'istighfar, c'est pas uniquement une formule qu'on lit avec la bouche. Là, wallah, c'est quelque chose qui sort du cœur. C'est une reconnaissance de nos erreurs, une reconnaissance de nos manquements, une reconnaissance de notre insouciance, de notre faiblesse et des moments où on a volontairement ou involontairement désobéi à notre Seigneur. Et la deuxième partie, c'est une conviction totale sur la clémence d'Allah, sur le fait qu'Allah est Ghafour, Rahim, Rahman, Rahim, Karim, Ghani, qu'Allah est riche, pardonneur, miséricordieux, clément et qu'Allah aime pardonner. Il y a deux parties de l'istighfar, c'est-à-dire dans la préparation spirituelle, on pourrait dire psychologique ou istighfar, il y a une prise de conscience, une double prise de conscience sur notre état à nous qui nécessite l'istighfar et sur la clémence de notre Seigneur. S'il y a un manquement dans une de ces deux entités, l'istighfar n'est pas complet. On ne parle pas encore des conditions, je parle de la formulation. Si je ne suis pas persuadé que j'ai fait des erreurs, que ce que j'ai fait c'était mal, donc il n'y aura pas de sincérité dans la demande. Si, de l'autre côté, je ne suis pas convaincu qu'Allah est capable de me pardonner, dans ce cas je peux verser des larmes et des larmes et des larmes, tant que je n'ai pas husnul dhann billah, une pensée positive de mon Seigneur, le istighfar ne portera pas ses fruits. Donc l'istighfar, c'est quelque chose qui se travaille au niveau du cœur et ensuite ça s'exprime par la langue. Donc c'est ça le 70 fois istighfar par jour, en pensant aux erreurs du matin, du midi, du soir, des manquements et des péchés qu'on a peut-être on a zappé, on a oublié complètement, et là se dire qu'Allah est clément et capable de me pardonner, et vraiment regretter avec l'intention d'être meilleur et de ne plus retourner vers ses erreurs. Et d'ailleurs, on avait vu également que lorsqu'Allah Azza wa Jal envoie Moussa alayhi salam voir Pharaon, c'est qu'Allah Rabbul Izzah lui ouvre une porte de retour possible. Même Pharaon, celui qui a osé dire Ana Rabbukumul A'la, personne avant lui ni après lui n'a osé dire je suis votre Seigneur, c'est moi le plus haut. Il a utilisé en plus le terme Al-A'la, le plus haut c'est moi, na'oudhu billah. Même une personne comme Pharaon a eu la possibilité à un moment de retourner vers son Seigneur. D'où la mission de Moïse, de Moussa alayhi salam et de Haroun alayhi salam. D'où le verset, le verset me revient. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Voudrais-tu te purifier de tout ce que tu as fait comme péché? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé être Dieu. Il a fait assassiner des bébés. C'est un crime ignoble. Il a procédé à un génocide, l'extermination des Israélites, tous les petits garçons des Banu Israël. Il a fait un pacte avec les Sahara, avec les sorciers. Il a insulté, il a défié Nabiullah, malgré le prophète d'Allah. Malgré tout ça, Moussa va le voir avec humilité, va lui dire, voudrais-tu te purifier de tous ces péchés? Parce que si tu dis oui, sache qu'Allah est capable de te purifier et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Je te montre la voie pour revenir vers Allah, et la voie lui était accessible, lui était ouverte, lui était possible. On voit la clémence d'Allah Azza wa Jal. On voit également comment est-ce qu'Allah Rabbul Izzah demande à son prophète d'agir correctement lorsqu'il va voir Pharaon, de s'adresser à lui avec des paroles douces, correctes, respect et non pas agressives, ainsi de suite. Il a réalisé des leçons, on finirait pas d'en parler tellement l'histoire de Moussa alayhi salam est une histoire très riche. Maintenant, on va revenir vers les versets qu'on a lus. Ce soir, on va essayer de faire 27-33, mais ça va pas prendre du temps en 5 minutes. Ce sont des versets de Rububiyya, des versets où on parle de l'unicité d'Allah de la création, dans le but de faire réfléchir l'homme, al-insan, afin qu'il se ressaisisse et qu'il retourne vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là la meilleure façon de prêcher. Lorsque Moussa alayhi salam, on reste avec notre prophète Moussa alayhi salam, reçoit l'ordre d'aller voir Pharaon et il exprime ses craintes à Allah Azza wa Jal, et lorsqu'il y a donc cet échange entre Allah Rabbul Izzah et Moussa alayhi salam concernant l'approche de Pharaon, la façon de lui délivrer le message, parmi les points qu'Allah Azza wa Jal demande à Moussa alayhi salam de dire à Pharaon, c'est de parler de la création des cieux et de la terre et de la création de tout ce qu'il voit autour de lui. Alladhi ja'ala lakum al-ardha mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala min as-sama'i ma'a. Qu'Allah, c'est celui qui a tout créé, qui vous fait descendre la pluie du ciel, qui vous donne la possibilité en ce sens d'avoir, mashallah, de la nourriture pour vous-même et pour vos animaux, les bestiaux, afin que il arrête d'aller ce que l'homme voit autour de lui. Et ça, c'est la meilleure des façons d'inviter une personne vers le dîn, que la personne prenne conscience que ce qui existe ne peut pas exister au hasard. Ça, c'est la plus grande. Il n'y a rien de plus aberrant que d'arriver à une conclusion que ce qui existe, c'est dû au hasard. C'est les gaz, c'est les trucs qui ont fait ça. Ça, c'est même les polythéistes de Quraysh reconnaissaient que le seul créateur, c'est Allah. Amman khalaqa as-samawati wal-ard. La première page de ce juz, ou alors tous les versets qui commencent par wala in sa'altahum. Si je demande à nos trois huffaz de me réciter la première page d'Amman khalaq, pas sûr que tout le monde est 20 sur 20. C'est une colle, ça. Il y a deux pages qui font peur aux huffaz. La première page d'Amman khalaq et la première page de qadaf al-hal mu'minun. Donc wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaqulunna Allah. Là-dessus, ils étaient unanimes. Les polythéistes de Quraysh savaient que le créateur des cieux et de la terre, celui qui les a créés eux-mêmes, c'est Allah. Maintenant, ils ont pris des intermédiaires. Ils vouaient le culte un peu à Allah, mais à d'autres aussi. Et il fallait que le prophète sallam les ramène vers une logique qui est que celui qui vous a créé, c'est lui qui mérite d'être adoré. D'où la relation entre l'unicité d'Allah de la création et l'unicité d'Allah de l'ibad, de le culte. Et ces versets ont pour but de rappeler l'homme, regarde autour de toi, regarde tout ce qui existe, qui a créé tout ça. Et là, il y a également, le but également, ça, il faut revenir un petit peu en arrière, c'est le fait que les Quraysh n'acceptaient pas qu'après la mort, leurs os, après, ils soient devenus poussière, reviennent, reprennent forme et qu'ils retrouvent la vie. Il y a le verset dans Sourate Yassine et dans pas mal de versets qui me retrouvent le verset qui parle de, je ne l'ai pas sous les yeux là, Aïda mitna wa kunna turaban wa ivaman a inna là. Mais justement j'ai un doute, c'est pour ça que je vous pose la question. A inna la mab'uthun aïda kunna turab. Quand on est réduit en poussière, wa ivam, et que nos os, les os, ils sont devenus comme ça, est-ce que c'est possible qu'on reprenne forme, qu'on redevienne des êtres vivants? C'est à cette étape-là que leur logique, leur aql, leur réflexion bloquée. Et Allah Rabbul Izza va les ramener vers la raison en utilisant la même logique sur laquelle ils essayaient de se baser pour accepter ou non l'adoration d'Allah, pour accepter ou non un des piliers du iman qui est al-ba'th, la résurrection. Celui qui vous a créé min al-adam, celui qui vous a créé à partir de rien, alors que vous n'existiez pas, vous êtes d'accord que c'est lui qui vous a créé? Ils disent oui, ils ont toujours été d'accord. Ils disent, mais maintenant réfléchissez, qu'est-ce qui est plus difficile? Créer un être vivant à partir de sifr, de zéro, de rien du tout, ou de redonner vie à un être vivant qui était déjà là, qui a disparu, il reste des os, il reste le coccyx, il reste un peu de son squelette, et à partir de là, il se reconstitue. La logique veut que, quand on part de zéro, c'est là ça paraît impossible. Mais quand la personne était déjà là, et qu'il disparaît et qu'il revient, là c'est plus logique. Là c'est, on va dire, un peu plus acceptable. Je vous donne un exemple décalé, tout bête. Hein. Si on vous dit que voilà, il faut parcourir une distance en tel endroit et tel endroit, avec une voiture, mais il n'y a pas de voiture. On vous demande de créer la voiture tout de suite. Je dis, ça, c'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qui est plus compliqué, de créer la voiture pour faire ce parcours, ou alors vous avez une voiture qui est en panne, qui ne marche plus du tout, et que maintenant il faut remettre une batterie, il faut recharger, il faut raccorder les câbles et remettre l'essence, et ainsi de suite, et là elle va redémarrer. Sans le moindre doute, quand quelque chose existe, à partir de ce qui existe, il est concevable, il est plus acceptable que la chose se concrétise plutôt que de démarrer de rien du tout. C'est vers cette réflexion qu'Allah Rabbul Izza amène, invite les polythéistes de Quraysh. Donc Allah Azza wa Jal les interpelle concernant la création maintenant du ciel. D'où le verset qu'on avait lu tout à l'heure. Je ne sais pas si on a lu la traduction, on dirait que non. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Donc Allah Rabbul Izza invite les Quraysh à méditer sur la création des cieux, mais également la création de la terre et de son organisation. Et quant à la terre, après cela, c'est-à-dire Allah l'a étendue, il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. On sait que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie possible. Et quant aux montagnes maintenant, les autres créations que l'homme voit le ciel, la terre, les montagnes, et si on va dans d'autres versets, afala yanzuruna ilal, quoi encore? Al-ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Que les Arabes, ils voyaient quoi comme animal? Plus souvent, c'était les chameaux. Que l'homme médite donc, et par analogie, chacun va analyser ce qu'il y a autour de lui. C'est une invitation vers la contemplation de la création d'Allah pour en déduire l'existence d'un créateur qui est parfait, qui a créé ses makhlouqat, être animé ou inanimé de la façon la plus parfaite. Seul le créateur aurait pu
aurait pu le faire. Donc, et quant aux montagnes, il les a ancrées pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Allah Rabbul Izzah explique l'organisation ciel, terre, montagne, présence d'eau, donc synonyme de vie, et le pâturage pour les êtres humains, pour qu'on puisse manger de ces bestiaux qui vont eux se nourrir d'eux, donc de ces herbes et ainsi de suite. Ah, donc, j'ai dit que là, on ne va pas trop s'étaler sur ces versets. On a fait à peu près le tour, on a expliqué ce sont des versets qui concernent la création. On a lu la traduction. Juste peut-être rappeler que la création des cieux, c'est un point qui, on l'avait déjà expliqué avant, qui n'a jamais été encore, qui n'a pas été pour le moment prouvé par les scientifiques. Viendra un jour, viendra une époque, peut-être qu'ils découvriront l'existence du ciel. Parce que pour l'instant, le ciel reste un terme très vague qui ne représente strictement rien. Alors que le mu'min sait pertinemment que le ciel, c'est haqq. Les sept cieux, ce sont des frontières, ce sont des frontières réelles. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait et qu'au niveau de chaque ciel, il y a des malaïkas. Et il y a différentes catégories de malaïkas qui peuplent chaque ciel. Le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au septième ciel. Et à l'entrée de chaque ciel, il y a une frontière. Et personne ne peut franchir un ciel sans l'accord des anges qui sont gardiens de ces cieux. Et où est-ce qu'on a vu toutes ces explications? C'est dans le hadith du Mi'raj, lors du voyage nocturne, lorsque François arrive avec l'ange Jibril sur le Burak. Les anges qui sont là demandent qui est-ce au Jibril qui t'accompagne. Et en ce sens, au nom de quoi il vient. Et là, lorsque l'ange Jibril annonce que c'est le prophète d'Allah, là, ils sont heureux, ils l'accueillent avec beaucoup de joie, beaucoup de contentement. C'était l'événement qu'ils attendaient. C'est-à-dire, donc on réalise que le ciel, c'est quelque chose de haq, de vrai. C'est pas une notion abstraite et peut-être un jour qu'ils vont découvrir. D'accord? Jusqu'à maintenant, ils ont du mal à aller jusqu'à Mars. D'accord? Il paraît qu'ils ont été sur la Lune, il paraît. Maintenant, il n'y a pas qu'eux qui ont, il n'y a pas qu'Armstrong, il y a Tintin aussi qui a marché sur la Lune. Moi, je fais plus confiance à Tintin qu'à Armstrong, honnêtement. D'accord? Il y en a qui sont capables de vous faire croire plein de choses. On ne va pas rentrer dans ce genre de thèse, de conspiration ou autre chose, mais il y en a qui sont très forts. Très très fort. Donc s'ils ont été capables de faire Avatar, ils peuvent nous faire croire qu'ils ont marché sur la Lune. Allahu a'lam. Law sallamna jadala, comme on dit. D'accord? Même, allez, on met les débats de côté, on accepte, mais au-delà de la Lune, ils n'ont pas de vaisseau ou d'appareil pour y aller. La vitesse n'est pas suffisante, il faudrait aller à la vitesse de la lumière. Et il y a un problème, je pense qu'on a des spécialistes en sciences, là je vais être ridicule. Je pense que les matériaux risquent de se dégrader si ça va trop vite, et il faudrait je ne sais combien d'années. Et donc, humainement, ce n'est pas possible, techniquement, scientifiquement. Donc ça m'étonnerait qu'on arrive à une époque où l'homme arrive au premier ciel, ce qui n'est pas prévu dans les textes. Autrement, ça aurait été un des signes de Riyama ou autre chose, mais non. Je pense que ça reste deux mondes parallèles qui ne se fréquentent. Par contre, et c'est là que nous voyons le décalage qu'il y a entre le monde physique et le monde du rêve de l'au-delà, chacun parmi nous, sans vaisseau, sans NASA, sans... Les Russes, ils ont des vaisseaux? Non, ils sont occupés là avec l'Ukraine. Enfin, ça c'est des... Ils ne sont pas musulmans, autrement ça aurait été déjà la guerre. D'accord? Donc c'est des blancs, ils sont bien blancs et pas barbus, donc c'est de la politique. D'accord? Si c'était des musulmans, ça aurait été plus compliqué. Là, ça aurait été vraiment une invasion de terroristes, islamistes, fondamentalistes. C'est quoi encore nos qualités? Islamistes, terroristes, fondamentalistes. Comment? Intégristes, merci. Donc les sifats, d'accord? Non, là ils sont occupés, donc ils n'envoient plus personne là-haut. Sans vaisseau spatial, sans NASA ou autre chose, on fait nous ce trajet régulièrement. Le monde des âmes. Allahumma, bismika, ou alors bismika Allahumma, amut ou ahya. Quand on meurt, le ruh, l'âme monte au ciel. À une vitesse qu'on ne peut pas calculer. Parce que c'est quelque chose qui est propre au monde de l'invisible, avec des règles physiques, ou on pourrait même dire chimiques, si on peut utiliser le terme, totalement différentes, où la notion d'espace et de temps n'est plus du tout le même. N'essayez même pas de calquer, de comparer, c'est des choses totalement différentes. Maintenant, moi, ce que je retiens, c'est deux points. Premièrement, d'où viennent les cauchemars? Parfois, c'est lorsque on dort sans avoir fait des ablutions, et que durant ce trajet, il y a des shayatines qui perturbent l'âme, d'accord? Comme des ticaniens du ciel qui perturbent notre âme.
L'autre point qu'on retient, et c'est le plus important, c'est l'importance de faire les ablutions avant de dormir, parce qu'on aura cet honneur, cette chance que notre ruh, notre âme se tiendra en prosternation devant notre Seigneur. Donc voyez le décalage qu'il y a entre le monde humain, dunyawi, le monde physique palpable, et le monde de l'au-delà. L'âme fait partie du monde de du ghaib, pas de l'au-delà, de l'invisible, des choses qui ne peuvent pas être vues, ni entendues, ni mesurées, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça, c'est une notion donc concernant le ciel, qui, dans notre croyance, c'est quelque chose de haq, de réel. Et Allah Rabbul Izza précise également, Rafa'a Samka, comment est-ce qu'Allah a élevé le ciel, et que la construction du ciel est solide. C'est que Bireir Ahmed également. Le ciel était construit sans poteau, sans pylône ou autre chose qui le tienne. Imaginez un plafond sans poteau, c'est pas possible. Et le ciel, donc c'est pas un gaz de couleur bleue ou autre chose, non, c'est quelque chose de réel, de solide. Dans certains versets, si je ne me trompe pas, on parle même de la fracture des cieux lors de la résurrection, le ciel. Alors, c'est qui avait dit ça, le Mohassibi, je ne sais plus, ça fait très longtemps. On parle de la résurrection et qu'à un moment donné, les gens vont entendre un bruit effroyable, le ciel va s'ouvrir et ils vont voir les anges, ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'on ne parle pas de quelque chose à l'état de gaz ou quelque chose d'illusoire ou comme un mirage. Non, c'est quelque chose de haq, de solide, de concret, et c'est quelque chose d'extrêmement qawi et qui tient sans Ahmed, sans qu'il y ait de poteau ou autre chose. C'est là création d'Allah Azza wa Jal. Hada. Et puis il y a dans ce couplet de versets l'alternance entre le jour et la nuit, soleil, matin et soir. On ne va pas reparler de ça parce qu'on avait maintes et maintes fois développé ces notions concernant l'alternance entre le jour et la nuit, la nécessité qu'il y ait jour et nuit pour qu'il y ait possibilité de vie, tant humaine qu'animale ou végétale. D'accord ? Ensuite, Waljibal Arsaha. Il est prouvé scientifiquement également que la Terre, elle a un certain équilibre par les montagnes, par rapport au poids des montagnes, ça crée un certain équilibre. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Tout ce qu'Allah Rabbul Izzah a créé, c'est pour vous, c'est pour les hommes, afin qu'on en jouisse, afin que les animaux également peuvent en profiter. C'est-à-dire, c'est là l'organisation d'Allah Azza wa Jal. Et cette organisation, elle est mise en place avant même que on a vu le jour, avant même que des générations et des générations avant nous, ils aient vu le jour. C'est là la création d'Allah. Donc celui qui intègre le fait qu'Allah a tout créé, il doit accepter obligatoirement qu'Allah est capable de redonner vie pour une autre étape, une autre vie, la vie de l'au-delà. Et justement, la vie de l'au-delà, c'est ce qui nous intéresse à travers les versets 34 jusqu'à à peu près 41. On a pu aller un petit peu vite concernant ces versets. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Fa'idha, alors attention, fa'idha ja'ati tammatul kubra. Puis, quand viendra le grand cataclysme? De quoi on parle dans tammatul kubra? C'est le qiyam, à la fin du monde. Le passage entre la vie de ce dunya et la vie du akhira, qui est l'aboutissement, l'objectif pour lequel ce monde a été créé, l'objectif pour lequel des gens naissent, évoluent, font de bonnes œuvres, font des péchés, et ensuite meurent et retournent auprès d'Allah. At-tammatul kubra, c'est la destruction de ce monde. Donc en commentaire, les savants disent aussi, comprenez que quand ce verset commence, ça concerne tout le monde. Ceux qui ont la foi et ceux qui n'acceptent toujours pas de croire. Malgré qu'ils constatent la création d'Allah, ils ne veulent pas voir parce que leurs cœurs sont remplis d'orgueil, de fierté. Leurs cœurs sont enflés d'orgueil, comme Pharaon, comme Abu Jahl, comme Abu Lahab, comme toutes ces personnes à toutes les époques qui savaient pertinemment la vérité, mais à cause de leur fierté, ils ne voulaient pas accepter le haq, la religion de la vérité. Donc que ce soit le croyant ou celui qui ne croit pas, qui n'arrive pas à voir les signes d'Allah de la création, comme Pharaon. On a vu la dernière fois. Au contraire, en voyant les signes, il se les appropriait. C'est-à-dire, il a eu le processus totalement inverse. Qu'au lieu de voir la création d'Allah et se rendre compte qu'il y a un seul créateur, il s'est dit que tout ça, toutes ces créations-là, c'est pour moi. Le Nil coule sous mes pieds, et ainsi de suite. Il a été complètement trompé par Shaitan. Donc, qu'on croit ou non, en tout état de cause, le Qiyama aura lieu. Fa'idha ja'at tammatul kubra. Et pour ça, il n'y a rien à faire. C'est quelque chose d'inévitable. Yawma. Et là, on a vous savez, quand on parle de Qiyama, à travers les versets, il peut parler de différentes situations ou différentes thématiques du Qiyama. Mais là, lorsqu'on parle de Qiyama dans An-Nazi'at, on commence par les A'mal. L'homme en rapport, en relation avec ses actions. Et là, c'est un élément fondamental. Parce que, pour Allah, juste après, excusez-moi, il y a l'enfer, description de l'enfer et description du paradis en fonction de l'orientation qu'on prend. C'est-à-dire que ces quelques versets, ça résume les deux vies. Ça fait partie du caractère miraculeux du Coran en trois ou quatre versets qui font deux lignes ou deux lignes et demie. C'est comme si Allah Rabbul Izza résumait ta naissance, ton évolution, tes choix, ta mort, la destruction de tout ce qu'il y a autour de toi, la résurrection et l'aboutissement de ton cheminement en fonction de tes choix. Ça, c'est complet. À travers quatre versets, les deux vies sont résumées. Fa'idha ja'atil tammatul kubra. Là, juste avant, on parlait de la vie. La terre, le ciel, la montagne, alternance entre soleil et nuit, donc lune, les animaux, pâturage et l'eau, tout ce qui fait la vie. Juste après, on parle de tammatul kubra. La destruction de ce dunya. On parle maintenant d'une étape essentielle, la prise de conscience et la reconnaissance des actions. Pas ici, parce que dans ce monde, personne n'est prêt à reconnaître ses actions et personne n'est capable de les reconnaître réellement. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, parce que l'homme oublie. L'homme oublie les bonnes œuvres qu'il a accomplies. Si je demande à notre frère Javed, quelle bonne action tu as fait lors du 27e en 2002 ? Impossible. Personne ne se souvient des bonnes actions. Je demande à Hicham, dernière fois que tu es parti à Maurice, quand on est parti côté flic en flac, combien, madame, excusez-moi, non, combien péché est-ce que tu as accompli en 1995 ? Personne ne peut dire. Donc, par rapport au fait que l'homme oublie, on ne se souvient pas des péchés, et des actions, bonnes comme mauvaises. Également, le fait que personne ne sait réellement si le péché a été pardonné, tout comme personne ne sait réellement si la bonne action a été acceptée par Allah. On n'a aucune certitude. Quand Umar al-Farouq, Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dit que, on avait dit ça la dernière fois, si on m'expliquait, si je savais, si j'avais la conviction, si j'avais eu la bonne nouvelle, que un sijda, une seule prosternation de toute ma vie, a été acceptée par Allah, je serais déjà content. Parce qu'au moins, je sais que ça a été accepté par Allah. Parce que Allah n'accepte que des pieux. Donc, quand on accomplit une action, on ne peut pas être sûr que voilà, ça a été accepté, c'est acquis. De même, le péché, il y a des fois où on fait un péché, on demande pardon, mais est-ce que les conditions étaient remplies et ainsi de suite ? On ne sait pas de le fond. Est-ce que c'était, on a husnudhan billah, une pensée positive, mais la réalité, on va le découvrir là-haut. La phase de découverte, c'est pas en opposition avec ce qu'on a dit tout à l'heure, avoir confiance en Allah. Là, on parle de découvrir. C'est là-haut, quand le livret d'action est proposé et remis à l'homme, qu'on va retrouver ou non les bonnes œuvres qu'on avait accomplies. Il est possible, Allah nous protège, que quand on voit le livret de bonnes actions, on ne retrouve quasiment rien. Toute ma vie, Hajj, Umrah, Ramadan, Coran, Dhikrullah, Salah, on cherche, il n'y a rien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien ? Plusieurs pistes possibles. Première piste possible, il n'y avait peut-être pas de sincérité, ostentation. Autre piste possible, il n'y avait pas de mutaba'a, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a fait plein de bonnes choses, mais ce n'était pas en suivant la sunna. On a fait comme on voulait. Ou alors, autre chose, ces actions ont été accomplies, mais on les a données aux gens. On les a vendangées à cause de riba, bohtan, namima, volm, tuhma, qila wa qal. On a fait du mal aux gens et les actions seront dilapidées et redonnées, redistribuées aux gens. Ou alors, certains péchés qui vont brûler, consommer ces bonnes actions. Quel est ce péché intérieur qui brûle les bonnes actions ? La jalousie. Iyakum al-hasad. Attention à la jalousie. Fa'inna al-hasada, car la jalousie brûle, consomme les bonnes œuvres comme le feu consomme le al-hatab, comme le feu consomme les brindilles secs. Comment est-ce que ça s'embrase rapidement en quelques secondes? De la même façon, on fait plein de bonnes choses, mais on a vu un ni'ma bien fait chez quelqu'un, il y a de la jalousie. Et qui dit jalousie dit méchanceté. Qui dit jalousie, méchanceté, c'est l'envie que mon frère chute et qu'il perd ce bienfait. Quand il y a cette méchanceté qui naît dans le cœur de l'homme, ben tes actions ne restent plus là. C'est grave. C'est grave, c'est une mise en garde sévère ce hadith, mais en même temps, ça nous montre que pour être quelqu'un de bien, il faut un juste milieu, un équilibre. Tu as la foi, alhamdoulilah, tu fais de bonnes actions, très bien. Tu évites les péchés, bien. Tu dois avoir le cœur propre aussi. On ne pourra jamais être un waliyullah, un homme proche d'Allah, tant qu'on n'a pas le cœur propre. Il n'y a pas un gramme ou un pourcentage de hasad, de jalousie, de haine, de désir de nuire dans le cœur. Là, on est quelqu'un de bien. Même si j'ai la plus grande barbe Guinness des records et que je passe mes nuits dans la mosquée et mes journées à jeûner, mais si mon cœur est sale, rempli de rouille, de jalousie, de méchanceté, de mauvaises pensées envers mon prochain, ce n'est pas un homme pieux. Et malheureusement, de nos jours, c'est nous qui distribuons presque les tickets. Lui, pieux, pas pieux. Bon monde, fasiq, hypocrite, et ainsi de suite. Là, on ne peut pas juger. Maintenant, il y a un tawazun également, bien sûr. Une personne qui n'accomplit pas du tout sa salat, par exemple. On ne va pas dire qu'Allah seul sait s'il est bien. Non. Awal shay, c'est fais les actions. Les actions doivent être présentes. Et ensuite, purifie-toi intérieurement, fais en sorte que rien ne porte atteinte à tes bonnes œuvres. Et fais en sorte que tes péchés ne détruisent pas tes bonnes actions. Et le reste, tu mets dans les mains d'Allah. Et personne n'a le droit d'interférer. Personne n'a le droit de dire, lui il est bon, lui il n'est pas bon, Allah seul le sait. D'accord ? Donc, est-ce qu'on était là ? Oui, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé, il se rappellera. À ce moment, on se rappelle de tout. Et on avait expliqué dans d'autres versets, dans le tafsir, d'autres versets, que le jour de Qiyam, l'homme se souviendra de l'intégralité de ses bonnes actions et de ses mauvaises actions depuis du moment où il était baligh, 13, 14 ans, jusqu'à sa mort. Chose qu'aucun homme ne peut se souvenir à notre époque. Mais le jour de Qiyam, les gens vont savoir tout ça. Ils vont reconnaître, ils vont rechercher de bonnes actions et ils vont craindre de voir les péchés qu'ils savent pertinemment qu'ils l'avaient accompli. Et quand ils voient une action qui ne les appartient pas, ils vont dire que cette action n'est pas à moi. Et Allah va dire que, vous connaissez l'histoire des doigts, le hadith des doigts, que ça c'est les doigts que tu avais fait sur la terre et qu'Allah n'avait pas exaucé et Allah te les a remplacés par des hasanat. C'est-à-dire que l'homme comprend, le joueur de Qiyam, il découvre, il voit ce livret de compte et il prend conscience de toute sa vie. Parce que tout compte fait, toute sa vie, là, le joueur de Qiyam, ça ne paraît pas comme 75 ans de vécu ou comme 50 ans de a'mal, d'action. Ça paraît comme yom, au barda yom. D'où les versets, qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin, ils vont se parler combien de temps, ce sont vous êtes restés sur cette terre, qalu labithna, on est resté yom. Hein? Au barda yom, un jour ou quelques jours, mais pas plus. Ils ne vont pas dire 75 ans ou 102 ans ou 98 ans, non. Dire que le dunya, à partir du moment où on le quitte, la notion de temps et d'espace n'existe plus. La notion de temps et d'espace de l'homme qui passe dans le monde de l'au-delà va devenir la notion de temps et d'espace de l'au-delà. Du coup, tout ce que nous aimions, nous chérissons de ce monde ne représentera plus rien. Si le temps et l'espace ne représentent plus rien là-haut, ce que nous aimions et ce que nous détestions, ce que nous voulions faire, nous ne voulions pas faire, tout compte fait, ça ne représente plus rien. Les seules choses qui vont représenter vraiment quelque chose de concret de l'au-delà, foi et bonnes œuvres. Foi et mauvaises œuvres. C'est les seules choses qui vont compter. Ça, c'est les réalités du akhir. Donc, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Le jour où l'homme, non, puis quand viendra le grand cataclysme, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Je pense qu'on va, on a 40 minutes, 38, on va s'arrêter, parce que quand on parle de l'enfer qui sera visible, qui sera présenté, ça nécessite un petit peu de tafsir, comme un peu de détail, parce que c'est un point essentiel. Je ne sais pas, est-ce qu'on va revoir les versets qui parlent de la présentation de l'enfer dans le Juz Amma, je ne suis pas sûr, donc ça nécessite un petit commentaire la prochaine fois. Cependant, on a là trois versets qu'on a cités rapidement, nécessaire peut-être de développer un petit peu, At-Tammatul Kubra, parce que c'est l'événement destructeur. Tout ce que nous pouvons voir et contempler sera détruit une fraction de seconde par ordre d'Allah Azza wa Jal. Et pourquoi on dit « Yawma yatadhakkaru al-insanu Masa'a, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé. Dire que, en commentaire, les Mufassirines disent que, ay, yatavakkaru fihi l'insan ou masa'a, l'homme va se rappeler quelle était son orientation, quels étaient ses choix, quelles décisions ils ont pris à chaque moment, à chaque tournant de la vie, bonne comme mauvaise. Ay, ma amilahu fi dunya. Yatadakkaruhu maktouba. Il va se rappeler en le découvrant dans son livret de compte. Bikitab yaqra'uhu. Par un livre qu'il va lire. D'où le verset. Wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati. Et on va faire sortir pour eux le jour de la résurrection. Kitab yalqahu manshura. Un livre qu'ils vont donc prendre, qu'ils vont trouver. Manshura. Donc en ce sens ouvert. Et où ils vont lire leur vie. Iqra kitabak. Il sera demandé donc à l'homme, dans le 15e juz, hein, sur le Banu Israël, Iqra kitabak. Chacun lira son propre livret de compte. C'est-à-dire, il n'y aura pas des anges qui vont venir vous présenter vos actions. C'est-à-dire, chaque homme se verra remettre son livret d'action et chaque individu se rendra compte par lui-même de ses actions de l'âge de 13 ans. Ensuite, tu tournes. Les actions quand j'avais 14 ans, les actions quand j'avais 15 ans, et ainsi de suite jusqu'à la mort. Tout est écrit parce que ce sont là la responsabilité, le amana des deux anges qui sont avec nous en permanence jusqu'à ce que notre ruh, jusqu'à ce que l'âme se sépare du corps. Là, leur mission est terminée. Ensuite, selon certaines sources, il vous retrouve le jour de Qiyama pour rester auprès de vous lorsque la personne sera jugée par Allah Azza wa Jal. Donc, Ay ma amilahu, il va le voir dans ce livret, Iqra kitabak, il lui sera demandé de lire et de prendre conscience de ses actions. Kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Chacun sera son propre juge. C'est-à-dire qu'en lisant ses actions, chaque personne se rendra compte, effectivement, voilà mes bonnes œuvres, voilà ce qui a été accepté par Allah, voilà mes péchés, voilà malheureusement les péchés qui ont filtré, qui sont passés au travers des filtres du Tawba, à travers des filtres du Ramadan, à travers des filtres du Hajj, que malgré les occasions qu'Allah me donnait, ben, il y a quand même des péchés qui ont pu traverser et ils sont là maintenant. Ça, c'est la pire des choses. Savants disent, il n'y a rien de pire que d'enterrer un homme avec ses péchés. Chose que nous ne voyons pas, bien sûr. Mais quand quelqu'un meurt et que ses péchés le rejoignent dans sa tombe, c'est la pire des choses parce que Allah nous a donné tellement d'occasions pour qu'on se fasse pardonner. Les ablutions, c'est une occasion. La succession des salats en Zuhur, Asr, Maghrib, Isha, Fajr, c'est une occasion. Les Umrah, c'est une occasion. Jum'a ila Jum'a, c'est une occasion. Et ainsi de suite. Comment est-ce possible qu'un homme laisse passer de telles occasions et que lorsqu'il est enterré, il y a encore des péchés? À moins que ce soit des kaba'ir, Allahu a'lam, des péchés majeurs pour lesquels il n'a jamais pensé à demander pardon. Et qu'est-ce qui fait qu'un homme ne pense jamais à demander pardon pour un péché majeur? Deux facteurs. Al-jahl, l'ignorance. Il ne connaît pas que c'est un péché, d'où l'importance de l'ilm, la connaissance religieuse, et al-rafla, l'insouciance. Quand Shaytan t'entraîne dans une routine qui est la routine de la vie, et qu'il finit par te faire croire que ta vie c'est ça. Comment peut-on réduire sa vie à réveiller le matin, déposer les enfants à l'école, aller au boulot, rentrer pour manger à midi, repartir au travail et redéposer les enfants à l'école, rentrer, dîner, regarder la télé, regarder des films, des émissions, ainsi de suite, dormir, se réveiller, aller au travail, déposer les enfants à l'école. C'est ça notre vie? Est-ce que c'est aussi réducteur que ça? Vous ne pensez pas qu'Allah nous a promis meilleur, mais que pour obtenir ce meilleur, vous ne pensez pas qu'il y avait un autre parcours plus honorable? Est-ce qu'on n'a pas d'autres objectifs à nous fixer de ce monde que de compléter ces fins du mois? Est-ce qu'on n'a pas d'autres objectifs dans notre vie que de veiller à ce que mon fils ait son brevet, ait son bac, ait sa licence, son master, son truc et tout, et ainsi de suite, qu'il réussisse? N'y a-t-il pas de projet plus noble lorsque... Allah, ben le verset m'échappe, c'est quand on essaie de le... Lorsque Moussa alayhi salam parlait avec les Banu Israël, je ne sais plus, ou alors avec les sorciers, ça ne me revient plus. Et il dit que... Non, oui, lorsqu'il parlait avec les Israélites qui s'étaient déviés du droit chemin, il dit que Allah ne vous a-t-il pas fait une meilleure promesse?
Alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Allah ne vous a-t-il pas promis paradis, Jannah? Vous vous attendez sur sa mairie, sur ce qu'il est en train de vous montrer, sur des choses qui sont visibles. Vous êtes en train de perdre votre temps, gaspiller votre énergie, user de votre spiritualité sur quelque chose qui brille, qui est en or, alors qu'Allah vous a promis Jannah, ce qu'aucun œil ne peut voir, ou aucun oreille entendre, aucun cœur imaginer. Comment est-ce que vous pouvez réduire votre vie à ça? Alors que ce qui s'appliquait pour les Israélites s'applique pour n'importe quel afrad, n'importe quelle personne de cette Ummah. Si ma vie à moi, j'estime que l'objectif de ma vie, c'est le mariage, les études, le travail, fonder une famille, et ainsi de suite, je me trompe. Ce sont là des choses bien hassan, sans le moindre doute. Mais l'objectif principal, c'est de développer une relation sincère et profonde avec notre Seigneur. À un tel point, l'objectif, c'est d'atteindre le ihsan, le plus haut degré de foi. L'objectif n'est pas non plus de faire les 5 salats. L'objectif n'est pas non plus de jeûner le Ramadan. Certes, ce sont des actions qu'Allah a rendues obligatoires, qu'on se doit d'accomplir, mais ces actions-là doivent nous permettre de décoller dans la foi, d'arriver à un état où dans ma prière ou en dehors de ma prière, je suis pareil, je contrôle mon regard, je contrôle mes oreilles, ma langue, mon cœur, moindre fait et geste, avec cette conviction que je suis devant Allah. Quand tu es en train de prier, tu es devant qui? Allah. Dans ta vie, sache que tu es devant Allah en permanence. Ça, c'est le ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara, comme si qu'on est devant le trône et Allah nous observe, et là on fait de bonnes actions pour lui faire plaisir et qu'on s'éloigne des péchés parce qu'on ne peut pas le décevoir. Développer cette relation avec le divin, ça c'est ce qu'il y a de plus noble, c'est atteindre le ihsan. C'est pour ça que c'était cité en conclusion du hadith Jibril, où on apprend les a'mal et le iman et le a'mal aux sahaba et à l'ensemble des musulmans. Et on verra ça dans les deux catégories ensuite quand on monte paradis, non, enfer d'abord et paradis. Et on va voir les deux facteurs qui mènent vers l'enfer. Magnifique, c'était dans Naziat. Et les deux facteurs qui mènent, ce n'est pas des actions, c'est des états d'esprit. J'aimerais qu'on aille parfois au-delà des actions. J'ai l'impression que ma femme Isha, donc je suis un bon musulman. Ce n'est pas suffisant. Des états d'esprit. Lorsqu'on parle du Jahannam, les deux facteurs qui mènent vers le Jahannam, c'est la désobéissance, l'insouciance, je mets ça ensemble, hein. Désobéissance, parce que la désobéissance, elle naît de l'insouciance, et ça c'est un point essentiel. Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans un écrit, il donne un exemple flagrant pour illustrer ce verset qui m'a choqué d'ailleurs. Il dit que, et le deuxième point, je ne l'ai pas cité, c'est donner préférence au dunya plutôt que les choix spirituels du akhirat. Et je pensais qu'on allait vers d'autres exemples. Il dit que celui, et là ça nous interpelle parce qu'on a tous vécu, celui qui se réveille pour la salat de Fajj, comme il dit en créole, son sommeil casse, il s'est réveillé tout d'un coup, il est 5h, et la prière est à 5h15, et il a donc ce dilemme, et ce dilemme, on le vit presque tous les jours. Est-ce que je me réveille, c'est juste l'heure d'aller toilette, akramakumullah, faire mes ablutions, me changer et d'aller à la mosquée, ou alors encore, combien de temps encore, Hicham, que ça le djabi du matin, encore 5 minutes. Et Ibn Uthaymin, j'avais lu ça, ça m'avait interpellé, il dit que celui qui choisit de se rendormir, il a choisi le dunya sur le akhira, et c'est un facteur d'accès au jahannam, qu'Allah nous protège. Et ensuite, on verra la prochaine fois les deux facteurs qui mènent vers le paradis. Wa amma man khafa maqama rabbi, celui qui craint le jour, il sera présenté devant Allah. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, un état d'esprit. On ne veut pas que des actions, on veut un état d'esprit qui nous accompagne au quotidien depuis le premier Ramadan jusqu'au prochain Ramadan, pas uniquement pendant 30 jours, c'est la vie. C'est ça l'istiqama. Istiqama, c'est dans les a'mal, mais c'est également istiqama dans la foi, dans le muraqabatullah. Cette première qualité, wa amma man khafa maqama rabbi, c'est celui qui a toujours eu la crainte de ce moment où il sera présenté devant Allah. Est-ce que depuis ce matin, je me pose à moi-même la question, je me suis déjà fait du souci? Est-ce que j'ai déjà essayé d'anticiper cette scène, cette situation que je vais un jour vivre? Quand je serai devant Allah, qu'est-ce que je vais répondre du choix que je viens de faire? de l'erreur, du péché que je viens de faire délibérément. Celui qui vit avec cette crainte, lui, il a une des deux qualités pour accéder au paradis. Et deuxième qualité, وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِلْ هَوَى, qui ne suit pas son nafs. C'est par opposition à celui qui a les deux facteurs qui mènent à Jahannam, qui préfère son nafs et donc le dunya, ce qu'il aime plutôt sûr que les ordres d'Allah, ben celui-là, celui qui va de la Jannah, وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى, il s'éloigne de tout ce que, de tout ce qui est pulsion, de tout ce qui vient de l'âme, de, qui vient de son nafs et qui va à l'encontre des ordres d'Allah. Vous voyez, Inch'Allah, on va essayer de développer ça la prochaine fois. Ce sont là des états d'esprit à développer, à mettre en pratique de notre vie, et ça se construit au travers des bonnes actions. Mais ne nous focalisons pas et ne nous réjouissons pas de nos bonnes œuvres. Essayons de développer cette relation plus profonde entre nous et notre Seigneur, et avec ça, Inch'Allah, on va obtenir ces qualités, on va réellement avancer. Et quand il y a cette préparation spirituelle, c'est là que on boit les versets du Coran et on en profite. On entend un verset, ça remplit nos cœurs de foi, de spiritualité. Alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum, les cœurs se mettent à trembler. Wa idha tuliyat alayhim ayatu, et lorsqu'on entend les versets, le iman, il augmente. Zadatum imana, wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, et la confiance en Allah également, il se renforce. Ça, c'est quand les cœurs sont prêts. Quand il y a un état d'esprit, il y a un istislam lillah, at-tazallul wal khudu'u lillah, se rabaisser devant notre Seigneur, comprendre qu'on est soumis à Allah, on est créé pour Allah, j'appartiens à Allah et je retourne auprès de lui, et Allah est au-dessus de moi, il me voit, il m'entend, il sait ce qu'il y a dans mon cœur, je suis comme dans la salah où je vais me contrôler, ma vie c'est une situation de soumission totale à Allah Azza wa Jal. Celui qui arrive à vivre ça, il accomplira les bonnes actions avec grande facilité, et en cumulant Zohar, Asr al-Maghrib Isha, depuis Zohar jusqu'à Isha, son iman a déjà augmenté parce qu'il s'est prosterné au moins 19 fois devant Allah. Et entre lundi et samedi, son iman a encore augmenté parce qu'il a ce socle spirituel qui va être meublé, augmenté, renforcé par les bonnes œuvres. C'est un cheminement de tous les jours avec notre Seigneur. Qu'Allah nous accepte dans la possibilité de comprendre et qu'Allah nous accorde ses qualités et nous accorde donc les qualités de la foi. On va reprendre la prochaine fois à partir de Faïda Dja, Atitamatul Kubra, et avec les deux cas de figure, l'enfer qui se présente, et ceux qui iront vers cet enfer à cause de deux problèmes, et ceux qui, alhamdulillah, auront le Jannah, Allahumma ja'alna minhum, grâce à deux qualités. Inch'Allah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakum khair.